Pendant cette première phase de déconfinement, France Culture vous propose de réentendre un certain nombre de bonnes choses. L'émission qui va suivre a été diffusée initialement le 21 octobre 2018. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Bonjour Pierre et Bernard.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche, en fin d'émission, vous nous proposez la chronique La cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui,
le parmesan.
À la cerise sera fromagère. Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez vers 12h15 la Madeleine de, le souvenir gustatif d'une personnalité. Aujourd'hui,
Maïlys de Kerangal.
L'écrivaine romancière Maïlys de Kerangal qu'on aime beaucoup ici à France Culture. Alors là, figurez-vous, le plat du jour sera consacré à ce sens qui permet à l'homme d'apprécier les saveurs des aliments qu'il mange. Qu'est-ce que le goût? Y a-t-il un bon et un mauvais goût? Le goût s'apprend-il? Nous avons eu envie de réunir autour de cette table une chef cuisinière et un chercheur. Adeline Grattard, bonjour.
Bonjour Caroline.
Bienvenue, merci d'être là avec nous.
Merci.
Vous êtes chef du Yamcha à Paris, une étoile Michelin. Vous êtes également à la tête de la boutique Yamcha et puis d'un café qui a ouvert cette année, le Laicha. J'espère que je ne me trompe pas dans prononciation des noms. Christophe Lavelle, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes un passionné de gastronomie, puisque jusque-là on ne voyait pas trop le rapport. Vous êtes un passionné de gastronomie. Vous enseignez dans de nombreuses universités, aussi bien la science que la cuisine quand vous ne faites pas les deux à la fois.
On essaye de faire les deux.
D'ailleurs, voilà. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre paru chez Flammarion, Toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir un chef. Alors, je vais d'abord vous poser la question à vous. Un certain Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski, disait « La bonne cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont ». Alors, il était surnommé le prince des gastronomes, Kurnonski. Vous êtes d'accord avec cette phrase?
Absolument
de Kurnonski?
Absolument pas, non. C'est en fait une idée d'anti-cuisine pour moi, cette idée. Parce que si les choses, elles ont le goût de ce qu'elles sont, si on les sert en leur laissant le goût de ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on doit absolument s'affranchir de tout acte de transformation de l'ingrédient, puisque l'ingrédient n'a le goût de ce qu'il est que si on n'y touche pas. À partir du moment où on y touche, c'est-à-dire rien que de couper un aliment, et encore plus évidemment de le chauffer, on va forcément altérer son goût. Mais altérer, c'est l'art du cuisinier, d'en faire quelque chose de meilleur que l'ingrédient de départ. Ou alors sinon, effectivement, on peut... C'est très bon une carotte crue. Carotte crue, il n'y a pas de cuisine dans une carotte crue, il y a un épluchage. Mais le goût de la carotte, il n'est que dans la carotte crue. Si je la cuis, ce n'est plus le goût de l'ingrédient tel qu'il est.
Ah bah, j'ai demandé ce qu'elle en pense à notre chef cuisinière, Adeline Grattard.
J'entends bien que toute transformation peut changer certainement le goût de base. Mais je pense que le but, en tant que chef de cuisine, est vraiment de sublimer les ingrédients en leur laissant leur nature, au plus proche de leur nature. C'est la difficulté. Et même si couper, cuire, peut transformer, on essaie de se rapprocher au plus proche du produit.
Un goût naturel ou un goût transformé, est-ce qu'on peut aussi parler d'un goût objectif et pas seulement d'un goût subjectif? Parce qu'on sait bien, Christophe Lavelle, qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, que même quand on mange une fraise, Natacha n'aura pas le même goût en bouche que moi, par exemple, ou que vous. Alors est-ce que le goût est nécessairement subjectif ou est-ce qu'il y a quand même une part d'objectivité?
Alors, il est nécessairement subjectif dans le sens que, alors il faudra qu'on revienne sur toute la physiologie du goût, mais il y a des signaux qui sont mesurables, de type physiologique, dans lesquels on a à peu près, je dirais, tous les mêmes récepteurs, que ce soit sur la langue ou dans les cavités nasales. Donc, il y a des choses mesurables biochimiquement qui sont universelles, mais après, il y a toute l'interprétation de ces signaux que fait le cerveau. Et là, c'est totalement subjectif, parce que ça va dépendre de l'individu, de sa culture, éventuellement de certains facteurs génétiques. Là, même les récepteurs peuvent varier, donc chaque individu a son propre goût.
Adeline Grattard.
On est beaucoup dans le souvenir, je pense, avec le goût, la mémoire. Et le goût se forme petit à petit, change aussi au fur et à mesure des années, de tout ce qu'on a pu gérer.
On n'aime pas les épinards, et puis quand on est grand, on aime les épinards, quelque chose comme ça.
Voilà, oui, ou alors on ne les aimera jamais, mais il y a une vraie évolution du goût. Je pense que plus on goûte de choses, plus on mange, plus le palais se forme ou se rétracte aussi.
Oui, parce qu'il y a des choses qu'on aime à un moment, et puis qu'on n'aime plus. Enfin, il y a des enfants qui mangent du fromage quand ils sont jeunes, puis à un moment, ils aiment plus ça, on sait pas trop pourquoi. Ou à l'inverse, la bière, qu'on apprend à aimer d'un point de vue sociétal. En général, la bière, on l'aime quand on commence à être adolescent ou plus grand, mais les enfants, on leur fait goûter de la bière, ils trouvent ça horrible.
Vous êtes, alors vous d'ailleurs tous les deux, vous en tant qu'enseignant, que formateur d'ailleurs de professeur de cuisine, Christophe Lavelle, et puis vous en tant que chef cuisinière, Aline Grattard, vous êtes tous les deux dans la transmission du goût. Comment transmet-on quelque chose qui est proprement subjectif, Christophe Lavelle ?
Moi, je suis pas dans la transmission du goût, j'ai une position assez confortable parce que je suis dans la transmission de la compréhension du goût. Donc, à partir de là, je laisse libre cours à mes élèves de faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent des informations que je leur donne. Mais on est vraiment, l'avantage, je dirais, des sciences. Alors, si j'allais dire sciences dures, mais la physiologie, c'est entre sciences dures et sciences molles. C'est pas trop comment le qualifier. Mais on est quand même dans des données assez chiffrables, assez objectives. Donc, pour le coup, on peut délivrer un message assez froid par rapport à ça. Et on n'est pas dans l'apprentissage culturel, justement.
On est capable de définir le goût? Physiologiquement, on parle de la physiologie du goût.
Oui, alors on est capable de le définir, mais il n'y a certainement pas de consensus. C'est-à-dire que ça reste un domaine de recherche totalement actuel, depuis des siècles qu'on s'intéresse au goût. Il y a évidemment encore énormément de terres inconnues dans ces histoires-là, ce qui laisse du travail aux chercheurs, et c'est très bien. Sachant que le goût, on sait que ça intègre la vue, ça intègre l'odorat, ça intègre il y a les saveurs, et tout ça se mélange joyeusement dans le cerveau, et c'est ce mélange qui est extrêmement complexe à décortiquer.
Aline Grattard, vous dites souvent que vous ne pouvez cuisiner que ce que vous aimez. Donc, comment transmettre ce goût qui est le vôtre?
Oui, c'est vrai. C'est
aux clients.
J'arrive pas à cuisiner si je n'aime pas quelque chose. Déjà, c'est former aussi la brigade à mon goût. Parce que il y a une trame dans le restaurant où, en fait, j'impose mon goût. Et ça, c'est amener toute une équipe à avoir le même sens, la même réflexion, à avoir les mêmes objectifs dans le rendu. Et c'est pas forcément évident. Surtout quand on a des jeunes cuisiniers qui arrivent d'un endroit, d'un autre, à créer une osmose et une harmonie dans la cuisine pour arriver au goût voulu.
D'autant que vous ne vous facilitez pas la tâche, Aline Grattard, parce que vous empruntez à Yamcha, à votre restaurant, vous empruntez beaucoup à la cuisine chinoise, où vous avez vécu, vous servez une cuisine qui est d'inspiration double, à la fois française et chinoise. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, ce sont des goûts très différents, la cuisine française et la cuisine chinoise. Alors, comment arriver à créer une cuisine qui mélangerait ces deux goûts extrêmement différents?
En fait, je pense que ce sont des goûts qui se rapprochent et ils ne sont pas opposés. La gastronomie chinoise et la gastronomie française se rejoignent dans la volonté de créer quelque chose de très alléchant, de très sexy. Et on a des saveurs dans ces deux cuisines qui séduisent beaucoup le palais. Par exemple, dans la cuisine française, ça va être le goût du beurre, de la caramélisation. Dans la cuisine chinoise, ça va être le goût du wok avec une huile de sésame. Donc, il y a des chocs culinaires qui ne s'entrechoquent pas. Ça se mêle très bien, ça se rejoint très bien. Enfin, pour moi, est-ce que c'est parce que j'ai eu la chance d'intégrer ces goûts en Asie et qui m'ont beaucoup plu, mais j'ai aucun mal à piocher dans les deux répertoires pour trouver un lien.
Est-ce qu'il y a une cuisine qui a plus de goût qu'une autre cuisine dans la géographie du goût, Christophe Lavelle ?
C'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup d'études notamment autour du non-goût, justement, qui serait une espèce de mise en valeur de la fadeur. Et ça, c'est vrai qu'on retrouve dans certaines cuisines d'Asie, et notamment le Japon, ce que nous, on a tendance à appeler la fadeur, mais qui va correspondre à un goût un peu subtil. Et puis, c'est clair qu'à l'opposé, on va avoir des cuisines, je sais pas, comme en Thaïlande, très, très épicées. Donc là, on va avoir tendance à dire que c'est un goût qui peut même être très agressif pour certaines personnes. Donc, il y a, bien entendu, des échelles, mais des échelles, pour le coup, géographiques, mais aussi au sein, si je prends la cuisine française, il y a forcément des plats qui vont être plus rehaussé que d'autres, et ça fait partie aussi du patrimoine culturel de chaque culture culinaire. C'est à l'échelle d'une culture culinaire, on va déjà trouver des différences marquées entre les plats, bien sûr.
On fait une différence d'ailleurs entre goût et saveur, je disais.
Oui, dans le sens que ce qu'on a l'habitude d'appeler goût, c'est l'intégralité des sensations. C'est-à-dire que le goût est en fait la somme de la saveur, de l'odeur, des sensations trigéminales, éventuellement tout ça étant biaisé par la vue et par
nos autres sens.
Par nos autres sens. Mais le noyau central, on va dire, c'est vraiment odeur, c'est la trilogie odeur, saveur, trigéminal. Trigéminal, on connaît moins en général, mais c'est parce que si on prend les saveurs, c'est assez facile parce que c'est le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami qu'il faut pas oublier. Donc cette fameuse saveur justement umami, ça veut dire savoureux en japonais, qui correspond à l'acide glutamique et qui est une saveur entre salée et... C'est assez difficile à décrire parce que c'est des récepteurs différents sur la langue. Et les odeurs, ça il y en a des milliers. Et les sensations trigéminales, c'est tout ce qui est sensation dans la bouche, mais qui vont correspondre à du piquant, l'astringent, le frais, le chaud. Ça, c'est des capteurs qui détectent tout ça et qui n'ont rien à voir avec les saveurs et qui vont nous permettre d'apprécier aussi les aliments de différentes manières.
Alors, on réfléchit pas toujours, je suppose, Aline Grattard, quand on cuisine, à cette cuisine scientifique dont nous parle. On a pas Christophe Lavelle. On se dit peut-être pas, bon, là, il faut que j'ai un peu toutes les saveurs, toutes les odeurs, un équilibre. Mais malgré tout, est-ce que vous travaillez avec toutes ces saveurs et est-ce que dans la cuisine française et dans la cuisine chinoise, ces saveurs dont vous parliez qui sont en harmonie sont plus nombreuses dans l'une que dans l'autre et vous arrivez à trouver l'équilibre entre toutes?
Je ne pense pas qu'elles soient plus nombreuses
dans l'une plutôt que dans l'autre.
Dans l'autre, mais faire la cuisine dans un restaurant, c'est s'exprimer, c'est se fier beaucoup à son instinct.
À son propre goût, vous le disiez d'ailleurs
tout
à
l'heure. Être très curieux aussi, et s'aventurer. Donc on n'est pas du tout dans un domaine scientifique, en tout cas chez Yamcha. Je n'ai jamais travaillé avec de chimistes. On est beaucoup plus dans le ressenti. On expérimente, on prend des risques. On est à la recherche de l'émotion.
Quand on cuisine, on goûte nécessairement. À quel moment vous vous dites, il est bon comme ça, je vais le servir?
En fait, je pense que le plat réussi, je ne le goûte pas. J'ai le sentiment qu'il est réussi si je n'ai pas besoin de le goûter. En fait, j'ai peur de goûter parce que j'ai peur d'être déçue. Et quand si jamais j'ai vraiment un gros doute, je vais goûter et m'assurer que c'est bien. Mais si j'ai pas besoin de le goûter, je sais qu'il est réussi.
Vous avez goûté sa cuisine? Son bœuf en daube, son stock office, ses pieds paquets maison.
Ses pieds paquets.
Ça vous plaît pas les pieds paquets?
Ah, non, je dis pas ça, mais en fait.
Et sa bouillabaisse. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse?
C'était des boîtes.
Vous écoutez Les Bonnes Choses sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Natacha Triou et sa Madeleine. Natacha, alors qui avez-vous rencontré? Vous nous le disiez tout à l'heure, redites-le nous.
Alors, il s'agit de Maïlys de Kerangal et sa Madeleine a justement beaucoup de goût. On lui doit l'énorme succès de son roman Réparer les vivants qui a été adapté au cinéma et au théâtre. Et c'est aussi quelqu'un qui aime les plaisirs de la gastronomie. Elle a publié Un chemin de table sur la vie d'un chef cuisinier. Elle a décidé de nous parler d'un fruit que l'on ne trouve plus beaucoup sur les marchés. Ce n'est plus de saison et quand vous l'ouvrez, il ressemble à un grand soleil. Pour sa Madeleine, Maïlys de Kerangal prolonge l'été.
Alors moi, je vais parler très simplement d'un souvenir très très fort qui est le goût du melon. Je me disais qu'il y avait un rapport pour moi entre cette histoire de melon que l'on trouve à partir de juin. Pour moi... Déguster un melon, ça instaure immédiatement une émotion très puissante liée à l'arrivée de l'été, avec en plus tout le mystère qu'il y a autour du melon, qui est quelque chose qui m'intriguait pas mal enfant, c'est-à-dire ces espèces de boules vertes, un peu secrètes, un peu closes, vert pâle, avec les... Je trouvais ça merveilleux que les parts soient déjà dessinées à l'avance, comme s'il y avait quelque chose dans la nature de cette courge, parce qu'en fait c'est de la famille des courges, qui le prédisposait à être partagé.
Charentais, Jimby ou Cavaillon, Gallia jaune ou Cailloran, tout est bon dans le melon.
Il y a quand même un espèce de mystère, il y a 10 000 manières de tester un melon sur l'étal du marché. Il y en a qui le pèsent, il y en a qui regardent sa peau, il y en a qui le hument. Et on dit aussi qu'il, voilà, que plus il est lourd, plus il est gorgé de sucre. Alors, il y avait toutes ces histoires de « moi je sais choisir des melons, regarde, ça c'est moi qui l'ai choisi, il est fortement... » Et puis, vraiment pour moi, depuis l'enfance et toujours aujourd'hui, c'est ce parfum très suave, très sucré. Et le melon, ça sonnait finalement la fin de la période scolaire et l'entrée dans l'été. Et après, c'est très associé à des souvenirs de plage où les melons étaient préparés dans des espèces de tupperware. Ils sentaient du coup un peu le chaud, un peu le plastique et on s'en gavait. Et je suis toujours impatiente chaque année de sentir de nouveau l'odeur du melon et de le goûter.
Christophe Lavelle, ça a quoi comme goût le melon pour vous ?
Oh, le melon...
Comment le définir ? Scientifiquement, tiens.
Ah ben là, il faudrait le passer dans la machine et... Parce que si moi je le définis en fonction de mon ressenti, c'est plus scientifique.
Oui, alors faites les deux, tiens.
j'ai pas passé le melon dans la machine, mais il faudrait passer le melon dans la machine. Et la machine nous dirait toutes les molécules qu'il y a dans le melon. Et pour chaque molécule, on a des tables qui nous disent celles qui apportent une saveur ou celles qui vont apporter une odeur. Et on peut avoir comme ça ce qu'on appelle un profil quasi exhaustif, moléculaire et du melon.
Avec la sensibilité qui est la vôtre, celle de la chef cuisinière Aline Grattard, est-ce que le melon est un produit qui peut inspirer votre cuisine?
C'est très difficile de trouver des bons melons. J'ai un souvenir d'enfance, décidément, de petits melons éclatés sur la terre avec plein de guêpes autour. Et on savait que si les guêpes étaient là, ils seraient délicieux. Et ça se vérifie à chaque fois. Je pense que c'est la sucrosité dedans qui rend le melon bon ou non. Oui. Et c'est tellement dur.
C'est clair que ce qu'on attend dans un melon, c'est qu'il soit sucré.
Adeline Grattard, vous avez quand même un plat signature. C'est votre bouillabaisse à vous. Hein. On entendait Fernandel parler de la bonne bouillabaisse. Votre bouillabaisse, elle est fine. Elle est faite de homard. Elle est dans cette cuisine iodée avec cette chair marine que vous aimez tant. C'est le homard au bouillon de piment. Quand je lis le homard au bouillon de piment, j'entends trois goûts différents. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce homard au bouillon de piment qui est donc votre plat signature?
En fait, j'ai envie de passer à une autre recette parce qu'on a récemment...
Vous arrêtez de le faire?
On vient de mettre une autre recette au point qui est dans la lignée du homard au bouillon. Et c'est l'évolution du homard au bouillon.
Mettez-nous à jour alors.
Et on a toujours le homard qui est cuit vapeur, donc laissé très naturel. On a toujours le jus fait avec les têtes, les carcasses. On a toujours le piment. Maintenant, on y ajoute du poivre du Sichuan, de l'ail, de la ciboulette chinoise. Et tout ça, je le fais dans un wok très très chaud. Je reboue le jus de crustacé que je ne bouillais pas comme ça et je mets tofu et homard coupés. Ça fait le mapo tofu. Un mapo tofu, normalement, c'est un plat du Sichuan très épicé qui est constitué de tofu, de bœuf et de jus de poulet. On l'a transformé avec les crustacés, avec les bons produits de Bretagne et ça rend quelque chose d'assez épicé, d'assez onctueux, d'assez puissant.
Christophe Lavelle, là c'est vers vraiment le biophysicien que je me tourne. Quand on entend un plat comme celui que vient de nous décrire Aline Grattard, est-ce qu'on est capable de dire ce qui se passe avec ces mécanismes associatifs?
Dans certaines mesures, oui, c'est toujours pareil. C'est que la science a ses limites, fort heureusement, et on essaye toujours de les repousser, ces limites, c'est le travail du scientifique. Donc c'est vrai que quand j'entends une recette comme ça... En même temps, je réfléchis, bien entendu, à ce qui se passe en termes d'échange gazeux ou échange liquide entre le milieu liquide et les ingrédients qu'on met dedans. Quels sont les composés hydrosolubles qui vont aller dans le bouillon? Quels sont les composés liposolubles qui vont aller dans la matière grasse présente? Comment ça va se passer? Maintenant, évidemment, on ne peut avoir qu'une idée très grossière avec toute la science qu'on peut injecter dedans parce que ces phénomènes, les phénomènes en jeu sont extrêmement complexes. Et donc, en fait, quand on veut, c'est un exercice que je fais souvent avec les étudiants de cuisine, pour le coup, c'est qu'on décortique des recettes. Mais on se rend compte quand on décortique une recette, pour une recette de 10 lignes, on va avoir 10 questions. Il y en a pour lesquelles on va avoir une réponse assez intuitive, encore faut-il la vérifier. Et puis d'autres, on n'a vraiment aucune idée de ce qui peut se passer. Et du coup, voilà, on rentre dans une démarche qui doit être une démarche scientifique où il faut mettre en place des expériences et faire tout un protocole avec différentes conditions pour travailler l'ingrédient en changeant à chaque fois un seul paramètre et voir ce que ça change sur le goût ou la texture, si c'est une texture qu'on veut évaluer.
Mais dans quel but vous faites ça avec vos étudiants? C'est pour leur apprendre quoi? À comprendre le goût, là, on est dedans?
Éventuellement à comprendre le goût, oui, ou à maîtriser une texture, à maîtriser un rendu, sachant que comme mes étudiants sont en fait des enseignants, il est important qu'ils aient un minimum de culture pour justement pouvoir eux-mêmes transmettre à leurs élèves des mécanismes sur lesquels ils ont quelques explications. L'idée...
Parce que vous êtes responsable, il faut le préciser, vous êtes responsable, Christophe Lavelle, à l'ESPE, de la formation scientifique des futurs professeurs de cuisine.
Exactement. Donc l'idée d'un professeur de cuisine aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il montrait la mayonnaise et si l'élève foirait, il balançait sa mayonnaise par terre en disant « t'as mal regardé comment je fais, regarde de nouveau ». Aujourd'hui, ça passe plus trop, ce type d'enseignement. Aujourd'hui, si l'élève foire sa mayonnaise, on attend de l'enseignant qui lui dise bah, oui, forcément, t'as mis trop d'huile à la fois, ou bah oui, forcément, t'as pas utilisé la bonne huile, ou qu'il puisse avoir un élément de réponse pour indiquer à l'élève là où était son erreur, et pas simplement, t'as mal regardé ce que j'ai fait, recommence. Et donc pour ça, il y a un minimum de connaissances physique, chimie, biologie, qu'on demande aujourd'hui d'avoir, et qui permet aux enseignants d'avoir plus de bagages pour justement expliquer un peu ce qui se passe quand on cuisine.
Adeline Grattard, vous disiez tout à l'heure, le goût évolue. Est-ce que pour vous, le goût s'apprend?
Il y a deux parties, il y a l'inné, on est plus ou moins sensible, on est plus ou moins capteur, peut-être en fonction aussi de l'éducation, peut-être si on a été amené à goûter plein de choses. Et puis effectivement, la deuxième partie, ça s'apprend, parce que on apprend à goûter aussi, on apprend à analyser, et c'est les années qui forment
ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est intéressant parce qu'on apprend, effectivement, on apprend à goûter, mais on apprend surtout à parler de la manière dont on goûte. C'est en fait ça qui fait le talent
des mots.
Le talent des grands dégustateurs, on parle souvent des dégustateurs en vin, mais leur talent, c'est pas du tout, ils ont pas un meilleur palais ou quoi que ce soit par rapport à nous. Pas forcément, non. Il y a très peu de distinction par rapport à ça, mais c'est plutôt une manière, une vraie capacité de mettre des mots sur leurs sensations. Et là où nous, on va très bien sentir les paramètres, mais on va être incapable de dire exactement à quoi ça nous fait penser, eux, ils vont avoir une manière de reconnaître, effectivement, et donc de pouvoir en parler. Et c'est ça, en fait, la vraie compétence, c'est d'être capable de parler du goût.
Christophe Lavelle, vous faites aussi des dîners à l'aveugle, ça vous arrive d'en faire? Alors, comment ça se passe et avec quel objectif?
Alors attention, effectivement, quand on dit à l'aveugle, c'est pas les yeux bandés. Hein. C'est juste qu'effectivement, c'est à l'aveugle dans le cerveau. C'est-à-dire que donc le dernier, c'était justement ce fameux Nantes Food Forum où l'idée, c'était de confronter un banquet de 150 personnes et de les confronter à des tests dans lesquels on ne disait pas pourquoi on avait fait ce test-là. C'est-à-dire qu'ils avaient systématiquement deux plats face à eux qu'ils mangeaient en appréciant le plat fait par deux chefs, donc Sylvain Guillemot et Jean-Yves Guéhaud. Et on ne leur disait rien. Et à part que, à votre avis, quel est le fil conducteur entre ces deux plats? Et donc, ils devaient essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi est-ce qu'on avait associé ces deux plats. Donc, ça pouvait être, le fil conducteur pouvait être qu'on avait utilisé le même produit, mais cru ou cuit, qu'on avait utilisé une recette traditionnelle, et puis qu'on avait mis la version végétarienne à côté sans dire que c'était la version végétarienne, ou qu'on avait utilisé, en l'occurrence, ici, un poisson d'élevage, et puis le même poisson, mais sauvage, et voir quelles étaient les personnes qui faisaient la différence. Et, au-delà de faire la différence, qu'est-ce qu'il préférait finalement?
Christophe Lavelle parlait des professeurs de cuisine ou des futurs professeurs de cuisine. Vous, vos professeurs de cuisine ont été des chefs. Vous avez été formé à bonne école. Hein. Vous avez été formé chez deux chefs 3 étoiles, Pascal Barbeau de La Strance et Alvin Leung de Beau Innovation. Alors là, on voit bien les différentes inspirations qui ont ensuite inspiré votre propre cuisine, Aline Grattard. Vous y avez appris des goûts différents. Vous y avez appris quoi à l'école de ces chefs? Par différence avec ce que nous expliquait Christophe Lavelle, qui forme des professeurs de cuisine. Est-ce qu'on pourrait parler des professeurs de cuisine pour les chefs chez qui vous êtes passé?
Oui, parce que les chefs qui transmettent sont des vrais formateurs avec leurs jeunes élèves. Enfin, ça reste dans un milieu professionnel, ça reste dans un rendu parce qu'on est employé, il faut travailler, mais dans toutes les années on apprend. Et pour moi, Pascal Barbeau, c'est mon mentor, il a formé mon goût. Vraiment. Il a formé mon goût à la sensibilité, à l'élégance et à l'harmonie. Bon, il m'a appris à détecter les produits, mais dans ce qu'on devait obtenir, il y avait toujours une délicatesse et une sensibilité incroyable, et c'était pas facile au début d'aller dans son sens. Après, chez Alvin Leung, c'était complètement différent, c'était l'opposé. Quelqu'un de très fou, très brutal, il voulait choquer ses clients, et je sortais de La Strance et je me disais, mais c'est pas possible, jamais le chef, il aurait fait ça. J'étais très jeune, et il aurait jamais fait ça, le chef, je peux pas faire ça. Et puis j'ai appris à goûter, à comprendre, essayer à comprendre, et ça m'a emmené sur d'autres horizons où j'ai pris après dans ma propre cuisine plus de risques. J'aurais été qu'à l'école Pascal Barbeau, j'aurais été peut-être moins audacieuse dans ma propre cuisine. C'est très important que les jeunes cuisiniers aillent se nourrir de diverses expériences. On ne peut pas apprendre qu'avec un seul professeur, qu'avec un seul chef de cuisine.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est justement il y a un peu les deux logiques qui mettent par rapport à un goût que l'on va construire. On peut chercher l'harmonie pour flatter le client, ou au contraire chercher à choquer pour déstabiliser le client. C'est deux démarches artistiques qui sont toutes les deux valables, mais qui ont toutes les deux comme but de susciter une réaction, que ça soit une espèce de confort agréable ou au contraire une espèce d'inconfort.
Et aujourd'hui, Aline Grattard, qu'est-ce que vous préférez? Choquer le palais de vos clients ou bien les flatter avec la sensibilité, l'élégance et l'harmonie que vous a transmise, que vous a appris Pascal Barbeau?
Je cherche l'harmonie en fait, l'équilibre entre tout. C'est pas forcément évident, sans ennui. C'est sans fin, en fait.
C'est ce qui fait le plaisir, oui. Je pense, de votre métier.
Oui.
Merci beaucoup, Aline Grattard. Merci beaucoup à vous, Christophe Lavelle. Merci. Eh bien, c'est l'heure de la cerise sur le gâteau. Pierre Hiverna, mais quel goût a aujourd'hui le mets dont vous allez nous parler?
Eh bien, je vais vous parler du parmesan. Alors Caroline, si je vous dis parmesan, ça vous évoque quoi?
Eh ben, ça m'évoque un goût particulier, peut-être un peu salé, je regarde nos deux invités, peut-être un peu salé.
Umami.
Umami, directement umami, voilà, ça m'évoque umami.
Alors, c'est un bon début, mais vous n'avez pas qualifié le parmesan et sa qualité première si jamais vous allez l'acheter. Parce que pour commencer, il faut effectivement ne pas confondre le Parmigiano Reggiano avec le Grana Padano, un autre fromage italien à l'appellation contrôlée qui lui ressemble mais qui répond à des critères de qualité beaucoup moins stricts. Le Parmigiano Reggiano est une appellation d'origine protégée. C'est une pâte pressée cuite, produite seulement dans un périmètre limité, en Émilie-Romagne, et sa fabrication doit nécessairement respecter un protocole très précis, sans ajout de ferment extérieur et un affinage de 12 mois minimum. Et puis, chers auditeurs qui ne jurez vous aussi que par les Parmigiano Reggiano, sachez que vous faites partie de ceux qui contribuent année après année à pousser la production de ce fromage vers des records. J'imagine que vous voyez vaguement la tête d'une meule de Parmigiano Reggiano, mais je vous rappelle quand même que la chose pèse de 30 à 40 kilos. Eh bien, figurez-vous qu'ils en ont sorti la bagatelle de 3,6 millions en 2017. Un chiffre en augmentation de 10% sur les trois dernières années et qui prévoit d'en produire plus.
Alors, sachant que de plus en plus de fromage, c'est de plus en plus de lait, de plus en plus de vaches et donc de plus en plus d'herbes pour les nourrir, comment font-ils pour préserver la qualité?
Effectivement, Caroline, la chose m'est apparue évidente quand j'étais au Salone del Gusto à Turin et que je suis tombé sur un producteur de Parmigiano Reggiano de Vacca Bianca, donc en français de vache blanche. Il m'a montré des photos de cette très jolie bête qui a pour hygiène de vie de batifoler 6 mois de l'année à 750 mètres d'altitude dans les Apennins au-dessus de Modène et de Bologne. Comme sa cousine française, la vache nantaise, elle a bien failli disparaître. Pourquoi ? Parce que moins productive. L'effectif actuel est de 800 têtes, il était de 140 000 dans les années 50, dont 200 dans les élevages du Caisificio Rosola, une coopérative de 7 petits éleveurs dont venait mon producteur. Alors vous me direz, l'AOP c'est l'AOP, à Caisificio Rosola comme ailleurs. Eh bien non, car le cahier des charges qu'ils se sont fixés est plus exigeant au niveau de l'élevage, ce qui a nécessairement, Christophe ne me démentira pas, un impact sur la qualité du produit final. Ainsi, à la différence des élevages de plaine, les troupeaux qui sortent à l'extérieur s'alimentent de la richesse du pâturage des montagnes et toute l'alimentation est produite par les éleveurs eux-mêmes sur leur zone de production. Quant à l'affinage minimal, il passe de 12 à 24 mois. En plus, ces vaches blanches sont particulièrement bien traitées, contrairement à la grande masse de leurs congénères productrices de lait pour le Parmigiano Reggiano, qui ont déjà fait l'objet de campagnes de lanceurs d'alerte s'agissant du bien-être animal. Néanmoins, me direz-vous, râpé sur mes pattes, je ne vais pas vraiment voir la différence. En réalité, la vraie différence, c'est que vous n'allez tout simplement rien râper du tout. Ce parmesan se déguste en fin de repas comme un fromage de très haute gastronomie qu'il est, et éventuellement, si vous voulez le mélanger à quelque chose, il supporte assez bien un bon verre de Barolo.
Vous aimez le parmesan, Adeline Grattard ?
J'adore, j'aime sa texture, les petits cristaux dedans, formidable.
Eh ben, j'espère que vous nous en avez rapporté de Turin, Pierre Hiverna, et qu'on va le déguster ensemble autour de la table. Et voilà, on est en train d'ouvrir le parmesan pendant que se terminent les bonnes choses qui se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Anthony Thomasson, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.